Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah bah ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et oui, nous sommes de retour le week-end des experts des animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout va bien Laetitia ?
Tout va bien.
Bon, il va falloir quand même que vous éclairiez ma lanterne concernant ces castors. On va en parler dans un instant. Les castors sont de retour en Île-de-France, les amis. Et oui, mais il ne faut pas avoir peur, tout est sous contrôle. Et puis tout à l'heure, avec notre Aurélie préférée, notre productrice, on découvrira le film L'Odyssée Laetitia.
Voilà, et on parlera aussi d'une nouvelle race de chiens qui vient d'être redécouverte en Auvergne.
Voilà, mais pour débuter, on va s'intéresser à l'association Andy Chien.
Voilà, et nous sommes avec Yvette Schmitt, qui est vice-présidente de l'association Andy Chien. Yvette, bonjour.
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 Merci.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Alors, depuis sa création, il y a 25 ans quand même, Andy Chien a formé et remis à des personnes handicapées pas moins de 1900 chiens d'assistance. Alors, dites-nous à quelles personnes sont destinés ces chiens et quel est le rôle de ces chiens?
Eh bien, écoutez, nous remettons en fait des chiens qui ont trois missions principales. La première, et ça c'est notre rôle historique, j'ai envie de dire, nous remettons des chiens à des personnes enfants et adultes. Et je souligne ça, parce que hier, par exemple, nous avons remis un chien à une petite fille qui a 5 ans. Alors, vous voyez, enfants et adultes, des chiens qui donc vont les aider parce qu'ils sont, ils souffrent de handicap moteur. Donc des enfants adultes en fauteuil. Nous remettons aussi des chiens qu'on appelle alors chiens d'assistance dits d'éveil, des chiens d'éveil, à des enfants qui souffrent de troubles autistiques, trisomie, polyhandicap. Et puis très bientôt, et ça ce sera pour nous une nouvelle ère, j'ai envie de dire, on remettra des chiens à des personnes souffrant d'épilepsie. Et puis on confie nos chiens à des référents dans des établissements EHPAD, IME, pour des adultes handicapés et puis bien sûr surtout des personnes âgées dépendantes, comme par exemple souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Alors, oui. On peut imaginer, pour revenir à votre au premier chien que vous avez remis, les chiens qui assistent des personnes handicapées moteurs, donc en fauteuil, on peut imaginer comment agit un chien guide d'aveugle, mais que fait un chien d'assistance pour personnes handicapées? Comment ces chiens aident, assistent ces personnes?
Eh bien, imaginons simplement que nous soyons dans un fauteuil. Alors, voilà, je suis dans mon fauteuil, je fais tomber mes clés.
Alors Yvette, juste excusez-nous, mais on vous entend très mal. Il faudrait que vous vous rapprochiez d'une fenêtre, parce que visiblement votre portable ne passe pas très bien.
Et c'est... Alors, ça va mieux comme ça.
Et c'est complètement haché. Là, ça va beaucoup mieux.
Voilà. Ça y est, je suis à la fenêtre.
C'est parfait, alors on vous entend
mieux.
Ne
bougez plus.
Il fait frais, hein. Donc, voilà, alors je vous disais, imaginons tout simplement que nous soyons dans un fauteuil. Il y a plein de choses dans le quotidien, comme faire tomber ses clés. Eh bien, je ne peux pas ramasser mes clés. Mon chien va me ramasser mes clés. Je veux sortir de chez moi, ouvrir une porte. Mon chien va m'ouvrir la porte. On aura mis quelque chose qui va lui permettre de l'attraper. Et donc, il va m'ouvrir ma porte. Je vais avoir besoin, je suis devant mon réfrigérateur. Voilà, j'ai envie d'aller boire un petit... je vais pas citer de marque, un petit jus d'orange. Donc, mon chien va ouvrir la porte du réfrigérateur, je vais lui dire « apporte le jus d'orange » et il va m'apporter mon jus d'orange.
Mais il connaît combien d'ordres comme ça?
Bon, plus de 50, hein, 52 commandes, on lui enseigne. Voilà.
Mais je
il
crois
en apprend
qu'il...
bien d'autres. Il en apprend bien d'autres.
Mais je crois qu'il peut aussi apprendre à aboyer sur commande.
Il aboie sur commande, donc c'est une sécurité, hein, parce que ça est arrivé, on a sauvé des vies, nos chiens ont sauvé des vies comme ça, parce que, bien sûr, tomber par exemple chez soi, les voisins savent que le chien n'aboie pas normalement. Hein. Donc, s'il se met à aboyer avec persistance, c'est qu'il y a un problème.
C'est qu'il y a une urgence.
Donc, voilà, c'est qu'il y a une urgence. Donc voilà, c'est vraiment un pote au quotidien, quoi, qui est là, qui est vigilant, qui vous aide, et qui, oui, plus de 52, 53 commandes, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque nos enfants apprennent aux chiens à leur enlever leurs chaussettes, à leur apporter leur doudou, voilà.
Hein, et est-ce qu'ils sont acceptés dans les écoles, alors?
Alors, c'est un grand débat. Nous avons eu, d'ailleurs, hier, puisque nous avons remis nos chiens, un grand débat. Normalement, bien sûr, ils devraient être, la loi l'autorise, hein. Mais il y a encore beaucoup de résistance, encore trop de résistance. Il y a beaucoup de nos chiens qui accompagnent les enfants à l'école, beaucoup. Mais voilà, nous sommes toujours confrontés à des résistances et nous faisons le choix plutôt de vouloir convaincre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à un établissement qui dit non, je ne veux pas, pour des tas de raisons, on explique, on montre. Et on fait accepter le chien,
oui,
au corps
comme,
enseignant,
voilà.
Bien sûr.
Comme les chiens guides d'aveugles, normalement, on peut les emmener partout, les chiens d'assistance.
Nous sommes exactement chiens guides et chiens d'assistance, on dit chiens. Nous sommes absolument régis par les mêmes règles et les mêmes lois. Et nous avons les mêmes droits et, bien sûr, les mêmes devoirs.
Alors, les races, ce sont des labradors, des golden retrievers. Pourquoi encore et toujours les labradors et les golden retrievers?
Alors, Golden et Labrador, pour une raison d'abord liée à leur comportement, à leur talent, j'ai envie de dire, sont des chiens qui aiment rapporter, je vous ai décrit.
Yvette, encore une fois, oui. On vous entend mal. Donc,
Je suis pourtant à nouveau à la semaine.
Ouais, mais c'est bizarre, on a une mauvaise liaison. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de vous rappeler. Pour conclure cet entretien, voilà. Et on revient dans un instant, on va essayer de trouver un autre moyen pour vous joindre. Et puis bien évidemment, je rappelle que vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Le 32-16 pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour, 7h18, c'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, on va évoquer les castors, Laetitia, les castors qui arrivent en Ile-de-France. Mais on va quand même terminer notre entretien avec Yvette Schmitt, qui est vice-présidente de l'association Andy Chien.
Alors Yvette, est-ce que ça passe mieux?
Pour moi, c'est parfait.
Ouais, c'est pas gagné. Hein,
c'est pas gagné.
Yvette.
Alors,
on va essayer.
Dites-nous, la grande nouveauté quand même chez Andy Chien, c'est que vous allez former des chiens d'assistance à des personnes épileptiques.
Absolument. Pour des personnes épileptiques. Donc là, il y a deux types de chiens, hein, qui peuvent aider les personnes épileptiques. Des chiens alors d'assistance. Se produit une crise d'épilepsie, le chien va apaiser la personne, va la sécuriser, se coucher sur elle, contre elle, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle un chien d'alerte. Et là, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. On est au début de l'aventure, car on fait les choses très sérieusement. J'espère que l'année prochaine, on pourra remettre notre premier chien. Ce chien-là, il lui faudra 7 minutes avant la crise, il va dire à sa maîtresse ou à son maître, voilà, tu vas avoir une crise d'épilepsie.
Et du coup, la personne pourra, par exemple, si elle est dans une voiture, elle pourra s'arrêter, elle pourra se mettre hors de danger, parce que quand on a une crise d'épilepsie, il y a quand même le danger de tomber, etc. Et elle pourra se mettre dans une position où il n'y a pas de danger.
Absolument, c'est tout à fait le but.
C'est incroyable, ça veut dire que le chien peut lire les tout premiers signes, avant même que la personne s'aperçoive va avoir une crise d'épilepsie, les tout premiers signes qui annoncent qu'elle va avoir une crise d'épilepsie.
Absolument, et c'est formidable, parce qu'en général, ce qui se passe, ça existe déjà, hein. On a plusieurs de nos chiens qui ont ces comportements. Oui. Déjà chez nous, déjà chez nous, qui ont développé ces comportements spontanément. Et donc, le chien va se mettre dans certaines positions. On a un petit garçon, par exemple, qui fait des crises d'épilepsie. Le chien, quand ça va se produire, le chien réveille les parents.
D'accord.
Et donc, aujourd'hui, le petit Léo, qui a un chien qui s'appelle Écolo, alors qu'il allait à l'hôpital plusieurs fois par mois, ce n'est plus du tout le cas. Donc, moins de crise et apaisé.
Et apaisé.
Moins d'angoisse. Voilà.
Super.
C'est comme ça. Mais
très bien.
C'est juste magnifique.
Bah oui, c'est
merci
vrai.
Merci beaucoup Yvette.
En tout cas, vous serez les premiers en France à remettre gratuitement des chiens. Parce qu'il faut quand même préciser que Andy Chien, c'est une association qui remet gratuitement des chiens à des personnes handicapées. et prochainement des personnes qui sont épileptiques, et que vous pouvez aider cette association, soit en faisant un don, soit en devenant famille d'accueil pour futurs chiens d'assistance, un petit peu comme les familles d'accueil pour futurs
chiens d'aveugles,
guides d'aveugles. Voilà.
Merci beaucoup Yvette.
Merci
Rappelons
beaucoup.
Que vous êtes vice-présidente de l'association Andy Chien. 7h21, Laetitia, on enchaîne maintenant avec les castors et Paul Hurel qui est avec nous pour
junior,
en parler.
Non ah, vous vous souvenez des castors,
castors juniors
junior.
Oh mon Dieu, ça nous rappelle notre enfance, cette histoire-là. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors vous êtes, vous faites partie du réseau Castor de l'ONCFS, qui est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors, on va parler d'un le castor. C'est vrai que tout le monde connaît les castors, et c'est vrai qu'il a une cote de sympathie très élevée quand même, hein, en raison de sa présence dans les dessins animés, dans les livres jeunesse. Et c'est vrai que beaucoup pensent que le castor ne vit qu'en Amérique du Nord, et pourtant il vit en France. D'ailleurs, il a bien failli disparaître en France. Il s'agit du castor d'Europe et non pas du castor américain. Alors, quelle est la différence entre le castor d'Europe et son cousin américain?
Alors effectivement, on est bien en fait en présence de deux espèces différentes. Hein. Elles ont pas le même nombre de chromosomes, donc il n'y a pas d'hybridation possible entre les deux. Et en termes de morphologique, on a exactement les mêmes espèces à l'œil nu. C'est vraiment très délicat de voir une différence.
La queue plate.
Voilà. Alors vraiment le critère distinction est vraiment c'est la queue plate effectivement qui permet vraiment de différencier d'une autre espèce qui est encore qui est le ragondin. Mais en termes de morphologie, en tout cas le castor canadien, le castor d'Europe, vraiment se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
D'accord.
Et voilà, les deux espèces sont castor canadien et vraiment Amérique du Nord. On a quelques individus qui sont présents aussi dans le nord de l'Europe qui ont été réintroduits par mégarde. Et par contre, en Europe, là, c'est vraiment l'espèce qu'on cherche à protéger, qui a quasiment disparu. Effectivement, c'est le castor européen, le castor fibert.
Et alors, où se trouve-t-il en France et pourquoi a-t-il failli disparaître de notre pays?
En fait, en France, on en avait quasiment partout, hein, dans le 12e, 13e siècle. C'était vraiment une espèce très commune. Il y a beaucoup de, on retrouve encore beaucoup au niveau étymologique, hein. Il y a des communes, par exemple, notamment en Île-de-France, hein, la commune de Bièvre, où c'est les anciennes racines latines, en fait, hein, de biver, qui traduisent effectivement la présence du castor à cette époque-là, un peu partout en France.
C'est-à-dire que Bièvre, veut dire, la commune de Bièvre doit son nom au castor.
Tout à fait, oui. Si vous regardez sur le blason communal, vous retrouvez justement un castor dessiné sur le blason communal. C'est vraiment
incroyable.
Ça montre effectivement ces traces historiques de la présence de l'espèce. Et on a réellement eu, en fait, à l'époque, bon, l'espèce n'était pas protégée. Il est vrai que voilà, il y avait une chasse de l'espèce assez prononcée pour la fourrure de sa fourrure. Effectivement, c'est un animal semi-aquatique, donc a une fourrure assez épaisse.
Oui.
Il y a certaines qualités de fourrure bien appréciées. Il était consommé aussi pour sa chair. Au Moyen-Âge, on avait, comme l'espèce, certes, c'est un mammifère, mais il a effectivement une queue plate qui a un aspect assez écailleux.
Oui.
Et donc, comme il vivait déjà dans l'eau, il y a certaines personnes qui le considéraient comme un poisson et qui le consommaient le vendredi.
Ah,
Moyen Âge.
Ah, oui. Il y avait du civet de castor au menu.
C'est ça, voilà. Les gens donnaient bonne conscience en mangeant en fait du castor le vendredi, alors qu'en fait, c'est pas du poisson.
C'est un mammifère, c'est pas, oui.
Ce n'est pas ce qui a contribué seulement à la disparition, mais effectivement, la fourrure, la chair. Et il y a aussi une substance en fait que le castor sécrète qui s'appelle le castoreum, qui est une substance très odorante et qui est encore aujourd'hui mais utilisée en produit de synthèse maintenant dans la parfumerie.
Ah bon? C'est-à-dire dans nos parfums il y avait du musc de castor?
Voilà, à l'époque, bon, c'était voilà vraiment plus utilisé le musc de castor, le castoreum. Aujourd'hui, si vous regardez parfois sur certains produits, effectivement, c'est écrit oil castoreum. Mais bon, voilà, on est plus en présence maintenant d'un produit de synthèse. On n'est plus à
heureusement.
D'accord.
Effectivement, l'espèce est protégée depuis 1968, mais en tout cas, à l'époque, c'était une des conditions. Donc, effectivement, en France, il y en avait quasiment plus. Les derniers individus, il en restait une centaine d'individus à peu près en Camargue dans les années 1900.
Oui.
Et il y a quelques personnes qui ont commencé à le protéger dans les 2-3 départements du sud de la France, Gard, Vaucluse, Gard, vers 1909. Et à partir de là, en fait, l'espèce a commencé à recoloniser un peu le bassin du Rhône, en remontant jusque sur le département de la Drôme, jusque Lyon. Et entre 1960 et 1996, il y a une vingtaine d'opérations de réintroduction. On a pris des individus sur ce bassin rhônédien qu'on a ramené dans différents endroits en France, notamment le bassin de la Loire, de la Moselle, du Rhin. Et avec sa protection légale sur toute la France en 1968, ça a vraiment aidé à ce que l'espèce recolonise, revienne sur des territoires où elle était historiquement présente, mais où elle avait disparu.
Alors, est-ce que comme son cousin américain, il construit des barrages?
Alors oui, tout à fait. Alors, C'est vrai qu'au début, comme l'espèce avait quasiment disparu, qu'on l'a réintroduit principalement sur des grands fleuves, comme la Loire, le Rhône.
J'ai vu près de la Loire des troncs en forme de crayon.
Oui, donc, tout à fait, oui.
On m'a dit, c'est le castor, c'est sûr que. Mais alors, c'est incroyable, parce qu'on le voit vraiment. Alors, je les ai pas vus, mais j'ai vu ces espèces de crayons, parce qu'ils font des. Comme dans les dessins animés.
Tout à fait, oui. Bah, l'espèce, en fait, effectivement, alors, on voit très peu l'espèce, en fait, en nature, et il faut bien connaître pour la voir. Mais effectivement, on voit beaucoup des indices qui traduisent sa présence, comme la coupe d'arbre, parce que l'espèce est strictement herbivore. Donc, en fait, elle va avoir besoin de couper des arbres sur la berge, qui sont principalement des espèces de bois tendres comme le saule et le peuplier. On va voir effectivement les traces de sa consommation avec des traces de dents très caractéristiques, et souvent voilà, ça fait comme un peu un taille-crayon, hein. Et donc on voit cet arbre qui est rongé de cette manière, qui tombe, et après le castor en fait va se servir des poux d'arbre effectivement donc pour la consommation, mais aussi pour édifier des barrages. Et voilà, comme je le disais au début, effectivement, comme il était sur des grands fleuves avec des hauteurs d'eau très, très importantes, il n'avait pas besoin de faire des barrages. Aujourd'hui, le castor en fait de plus en plus, parce qu'il arrive justement, il recolonise de plus en plus des petits cours d'eau avec des niveaux d'eau très peu profonds, ce qui nécessite en fait de créer des barrages pour faire monter le niveau d'eau. Le castor, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a besoin à la fois de la présence d'une eau permanente. Mais on dit souvent dans les bibliographies qu'il faut avoir au moins 60 cm d'eau de profondeur pour en fait que l'entrée de son terrier soit immergée sous l'eau.
D'accord.
Et donc c'est vrai que dans les petits bras d'eau maintenant où il est présent, le niveau d'eau étant souvent insuffisant pour lui, il va édifier ses barrages comme le castor canadien. Mais effectivement, il y a 20-30 ans, on disait non, le castor d'Europe ne fait pas de barrage parce qu'on n'en voyait pas clairement en France. Mais maintenant, aujourd'hui, il en fait de plus en plus. Donc on en voit beaucoup sur le bassin de la Loire, notamment, bassin du Rhône aussi. Et donc c'est vraiment là une espèce formidable pour ça. C'est vrai qu'elle est capable vraiment de modifier son écosystème d'une façon incroyable.
Paul, vous restez avec nous. On va poursuivre sur ce castor qui arrive donc en Île-de-France.
Hein. Et oui.
Peut-être qu'il y en a un pas loin de nos studios. Moi, j'aimerais bien rencontrer un castor. Voilà, je ne sais pas si c'est très bavard, un castor. Ça fait du bruit, castor, Paul?
Ça peut faire un peu de bruit, mais très très peu. Ça, des fois, les jeunes castors font un bruit comme un peu des nourrissons.
Ça couine un peu.
Oui, voilà, ça couine un petit peu, mais il faut vraiment être très proche pour les entendre. Hein.
D'accord. Ça fait pas le même bruit que la loutre, par exemple.
Non, pas du tout. Non.
D'accord.
Non.
Donc la météo, les infos, et on revient. C'est RMC, et on va poursuivre notre découverte de cet animal sympathique, le castor. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC.
Laetitia, attention, c'est l'heure de la question.
Flash.
En moins de 2 minutes, la Tiatia, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Gilles. Mon chat s'appelle Figaro. Figaro ? Mais il est très sauvage. Lorsqu'on reçoit des amis, il se cache systématiquement dans la chambre et ne vient nous voir que lorsque tout le monde est parti.
Oui. Ouais. Bah oui.
Est-ce un trait de caractère ou est-ce possible de modifier son comportement, Laetitia ?
Écoutez, Gilles, beaucoup de chats, pour ne pas dire tous les chats, détestent le bruit, l'agitation, le monde, la musique à fond, le mélange d'odeurs. Parce que aussi, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'odeurs différentes, sans compter l'odeur de la bière et
du vin.
Et voilà. Donc tout ça, ça les dérange. Alors, que fait le chat ? Instinctivement, il se cache pour retrouver un apaisement.
D'accord. Et oui, ça le stresse, tous ces stimuli, le stress.
Bah oui, parce
en fait.
Que c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc voilà, il se cache. Et pourquoi il ressort à la fin ? Bah parce que le calme revient,
tout simplement.
Et après, il anticipe, il sait que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, peut-être que la soirée va recommencer. Oui. Donc je me cache et puis il est très bien sous le lit. Et pourquoi pas ne le laisser sous le lit ? Alors oui, il y a certains chats qui sont plus sauvages que d'autres et qui se cachent plus facilement que d'autres. Souvent, ce sont des chats qui n'ont pas été socialisés petits dans leur vie, peu socialisés, peu manipulés par l'homme avant leurs 2 mois. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas aller chercher le chat sous le lit parce que ça va encore plus le stresser. Oui. Vous laissez faire.
Au bout d'un moment, il ressort, non ?
Oui, puis avec les années, ben il va comprendre, il va d'abord reconnaître les odeurs des invités et il va savoir que bon ben rien ne lui est arrivé quand
donc
le cousin Hubert est venu et peut-être que je vais aller voir le cousin Hubert
qui a l'air sympathique finalement.
Et puis faites un petit peu de calme avec vos invités aussi. Voilà, ne criez pas, ne trinquez pas, mettez une petite musique douce et il va arriver.
Et pas de cacahuètes hein, pour le chat, hein, c'est pas bon. Hein.
RMC, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 8h25. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Excellent dimanche avec RMC. Vous venez peut-être de nous rejoindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches 6h, 8h, un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer 2 heures en compagnie de notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui répond à vos questions et avec qui nous nous intéressons à tout ce qui touche de près ou de loin à l'actualité liée aux animaux. Dans quelques instants, on va s'intéresser au commandant Cousteau aussi, Laetitia, avec le film L'Odyssée, qui rend hommage évidemment au commandant Cousteau. Et nous aurons en interview le réalisateur de ce film.
Et nous continuons avec les castors qui reviennent en Île-de-France. Et oui, il y a des castors en France. Et nous sommes toujours avec Paul Hurel du réseau Castor de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors dites-moi Paul, et ça va intéresser François. Il faut savoir que le castor, chose rare chez les mammifères, est monogame, fidèle et se marie à vie. Et alors, ils vivent, le couple vit dans cette petite hutte sous l'eau.
Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne rencontre pas sur toutes les espèces. Mais on a effectivement un couple fidèle avec donc le mâle et la femelle qui vont vivre sur un territoire, on estime, entre 300 mètres et 2 km linéaires d'un cours d'eau. Et ils vont avoir pour habitation en fait un terrier. Le castor est un rongeur, donc il va creuser sous la berge un genre de tunnel, en fait, une entrée
sous l'eau.
Voilà, l'entrée est vraiment sous l'eau, en fait, un peu inconsciemment, il a envie de se mettre à l'abri de ses prédateurs. Et en fait, donc l'entrée va être sous l'eau, et après, il va y avoir comme un petit couloir qui va lui permettre de remonter à l'intérieur de la berge pour sortir du niveau d'eau, et après, on accède à une chambre qui sera donc hors d'eau, en fait, mais qui reste sous terre. Et dans cette chambre, parfois, il ramène un peu des écorces d'arbres, un peu de une genre de litière pour justement se faire un peu un genre de sol dans la chambre.
D'accord.
Et il arrive effectivement que aussi il coupe des bouts de bois, qu'il les mette au-dessus de ce terrier, au-dessus du sol, pour faire un genre de toit au-dessus du terrier. On appelle ça un terrier hutte. Et on a dans cette chambre, dans ce terrier hutte, effectivement les deux adultes. Et chaque année, ils vont mettre bas. Alors le castor européen, normalement, on parle de 2 jeunes par année.
Oui.
Et donc chaque sur une année, en fait, on va avoir les 2 adultes, les 2 jeunes de l'année en cours et les 2 jeunes de l'année d'avant. Et donc forcément, quand les 2 jeunes de l'année en cours arrivent, les 2 jeunes de l'année d'avant doivent partir, doivent trouver un nouveau territoire parce qu'il n'y a plus bien assez de place pour ces individus dans le terrier.
C'est incroyable parce que la chambre parentale, en fin de compte, on n'y accède que par l'eau.
Voilà, tout à fait. Alors parfois, il arrive que effectivement les niveaux d'eau, par exemple sur la Loire, un fleuve qui restait assez sauvage, où effectivement on a des niveaux d'eau qui fluctuent pas mal. Donc, et il arrive que le castor, des fois, à l'entrée de son terrier, ne soit plus sous l'eau, mais des fois, sur son domaine vital, il peut avoir plusieurs terriers à différentes hauteurs de niveau d'eau, pour justement permettre d'avoir cette entrée toujours sous l'eau. On a vraiment un mammifère en fait qui est semi-aquatique, qui va vivre sous l'eau, qui peut même nager pas mal de temps sous l'eau. On parle de 10-15 minutes parfois en apnée.
Ah ouais.
Et aussi aller sur terre ferme pour aller consommer, couper des arbres.
Oui, parce que c'est quand même le seul animal ébéniste. D'accord.
C'est le bûcheron. C'est le bûcheron, non?
On l'appelle ingénieur des écosystèmes plutôt, mais effectivement, il est dans un sens un peu bûcheron. Oui.
Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un castor près de chez soi? C'est-à-dire, on dit qu'il a un rôle écologique, le castor. Il est quand même bûcheron, il coupe les arbres.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que le fait qu'il ait vraiment une incidence sur l'écosystème, alors c'est principalement donc sur la rive piscine, sur les berges, sur les arbres qui sont sur la berge des cours d'eau ou des étangs, effectivement, il y a un rôle à la fois, dans certaines zones, il va éclaircir en enlevant quelques arbres, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces arbres-là ne sont pas, après, on n'en parle pas de coupe rase, comme parfois pour certains bûcherons, on a vraiment souvent des arbres qui vont recéper énormément, comme le saule, le peuplier, donc on voit vraiment en espèce castor, une espèce qui va effectivement couper des arbres, mais revitaliser, en fait, redonner une dynamique à la ripisylve. Et surtout, là où il est vraiment ingénieur des écosystèmes, c'est quand justement il édifie ses barrages. Parce que là, on va avoir vraiment une création de zones humides avec donc les niveaux d'eau qui vont parfois sortir du liminaire du cours d'eau, qui vont atteindre des eaux qui initialement étaient hors d'eau. Et donc, on a tout un cortège d'espèces animales, végétales qui vont être associées à la présence du castor et des zones humides que le castor va créer. Et c'est vraiment ça où l'espèce a vraiment un intérêt en termes écologiques. Parce qu'on a beaucoup de zones humides aujourd'hui en France, on essaie une protection qui permet de les protéger, mais effectivement le castor est là aujourd'hui à, on va dire, renverser la vapeur et à recréer des zones humides qui aujourd'hui ont tendance à disparaître en France.
On peut l'observer facilement?
Alors le castor en, en observation, bon, l'espèce est principalement nocturne, hein, vraiment, donc effectivement, pour la voir, c'est au crépuscule ou à l'aube.
Oui.
Et bon, c'est sûr qu'en été, comme les jours sont un peu plus longs,
c'est plus facile pour
nous de les voir. Et puis là, vers la fin de l'été, on a les jeunes aussi qui sortent, donc ça fait plus d'individus, on va dire, qui sortent autour du terrier. Donc il faut, voilà, faut être discret, faut être conscient de l'écologie de l'espèce, donc savoir qu'il y a besoin d'un cours d'eau, qu'il faut avoir identifié s'il y a justement des coupes en crayon, comme le disait Litessia tout à l'heure, pour voir si l'espèce est bien présente. Et puis après, il faut s'en remettre patience, et puis souvent, c'est récompensé.
Merci Paul.
Merci beaucoup.
Merci pour toutes ces informations sur le castor. Et oui, qui vit en France aussi.
Et
voilà.
Et vous savez ce que fait le castor quand il va faire du shopping? Non?
Non.
Il va chez Castorama.
Oh, oh là là.
Ah, bon, écoutez, puisque celle-là est passée à 8h20, on va enchaîner.
Avec Julien.
Avec une race de chiens qui vient d'être découverte, Laetitia.
Et voilà, et nous sommes avec Julien Souvigné, qui est président de l'association de sauvegarde du chien berger d'Auvergne. Alors, qui est ce chien berger d'Auvergne? On va le savoir avec Julien. Julien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Alors, c'est marrant parce qu'on parle d'une espèce comme le castor qui a disparu de nos régions et qui est revenu la recoloniser. Et nous allons parler d'un chien qui a disparu et qui a été redécouvert. Alors, comment redécouvre-t-on une race de chien?
Alors déjà, il n'avait pas entièrement disparu, on va dire. Donc on a redécouvert la race de chien. C'est Émilie Dracon qui avait la nostalgie de ce chien et qui possédait un chien déjà. Et qui a fait en fait un avis de recherche, qui a passé un avis de recherche auprès de différentes associations. Et
ah bon, pas sur Internet, manière. Pas sur les petites annonces, quoi.
Non, sur les journaux locaux.
Chien berger d'Auvergne.
et oui, avec une photo. Elle l'appelait pas chien berger d'Auvergne, elle disait recherche... chien de nos campagnes, ou je sais plus comment elle avait dit, mais c'était sur les journaux locaux, et donc par ce biais-là, elle a eu quelques remontées, et ce qui nous a permis de démarrer finalement notre petite association.
Alors, décrivez-moi ce chien, parce qu'à quoi ressemble-t-il?
En fait, on n'a pas forcément de standard fixe.
Oui.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'en est pas à un stade de race, on en est à un stade de population. Donc, en fonction qu'on se trouve sur le Puy-de-Dôme, sur le Cantal, sur la Haute-Loire ou sur l'Ardèche ou sur différents départements, le berger d'Auvergne n'a pas tout à fait la même physionomie.
Ah
la
bon
seule chose qui... Et non, pour le moment, on n'a pas de notion de race.
C'est quoi? C'est un chien de berger. Donc,
c'est un chien de berger.
Voilà.
De taille moyenne.
Taille moyenne. Et au niveau...
De taille moyenne.
Poil.
Au niveau poil, un poil assez dur, un sous-poil dense.
Oui.
Et sa caractéristique, c'est que c'est un chien très rustique. Quoi.
Voilà. Et il ressemble, j'ai vu des photos, il ressemble à un berger. Enfin, croisé berger.
Oui, un chien avec le porte-queue assez bas, les oreilles, on a tous les ports d'oreilles, droits, semi-dressés ou basses, des têtes souvent assez fines, des crânes plutôt ronds, des membres assez fins. Mais on peut pas dire le berger d'Auvergne est comme celui-ci, quoi.
Le problème, c'est ça, c'est qu'on peut vous dire aussi, c'est un croisé ou un cornuau de nos campagnes et c'est pas une race.
Eh oui. Et à la base, si vous voulez, c'était un métissage de chiens de pays, quoi, puisque avant les années 80, il n'y avait pas autant de chiens de race dans la campagne, et c'était un métissage de chiens de pays, quoi. C'était, on pouvait pas dire que c'était une race. C'est vrai que c'était un cornuau. On l'appelait d'ailleurs le cornuau ou le bâtard, et c'est nous qui l'avons entre guillemets baptisé le berger d'Auvergne. Mais c'est vrai que c'était pas une race, c'était un métissage, quoi, de chiens.
Alors, de toute façon, toutes les races de bergers, justement, ont commencé comme ça. C'était dans des régions, des chiens qui étaient un métissage, justement. Et après, on a fixé la race. Donc, ça veut dire que vous êtes... Le but de votre association, c'est justement de fixer la race.
À terme, tout à fait, oui. C'est, à terme, c'est de fixer la race et d'en faire un chien reconnu, quoi.
Alors, quelles sont les qualités de ce chien berger d'Auvergne?
Alors, je crois que la première de ses qualités, c'est que c'est un chien très, très rustique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'est jamais malade, qui peut vivre dans les fermes, je veux dire, sans aucun problème. Et après, il est très proche de son maître, il est très dévoué à son maître, il est très facile à dresser sur le troupeau. En fait, il travaille par mimétisme, quoi. Si vous n'avez pas de vieux chien capable de dresser le jeune chien, c'est votre travail de, mettons, les éleveurs laitiers rentrent les vaches matin et soir, et bien le chien va comprendre le travail et un beau jour, à 5 mois, 6 mois, 7 mois, il va se mettre à faire le travail à votre place. Et voilà. Et c'est un chien très polyvalent.
Très bien, merci beaucoup Julien.
Merci beaucoup.
Merci François, merci Laetitia.
Le chien berger d'Auvergne.
Voilà, on va mettre des photos de ce chien. Alors justement, si vous habitez en Auvergne et si vous avez, connaissez de ces chiens-là, comme on est en train de constituer la race, ça serait bien quand même de prendre contact avec cette association pour fixer une nouvelle race, chien berger d'Auvergne. En plus, c'est très joli comme nom.
Oui, c'est vrai que ça sonne bien. Merci Julien.
Merci beaucoup.
Merci.
Et bon dimanche.
Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir.
Laetitia, vous le savez, dans ce rendez-vous animaux, c'est aussi l'actualité cinématographique liée, on va dire, à la nature et aux animaux. Dans un instant, on va découvrir un film qui est sorti mercredi dernier. Il s'agit L'Odyssée, qui est évidemment, qui raconte l'histoire du commandant Cousteau. On en parle dans un instant avec Aurélie, notre productrice qui nous rejoint dans ce studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h48, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, Laetitia, ce sera notre vidéo LOLCAT, mais qui est vraiment très drôle.
C'est une fable de La Fontaine.
Oui, c'est le lièvre et la tortue. Et quand on fait la course, quand on met en place une course entre un lièvre et une tortue,
ou un lapin et une tortue,
et qu'on filme ça, ça donne un résultat, il y a forcément un gagnant. On va pas vous le dire, il faut regarder la vidéo. Mais on retrouvera cette vidéo sur la page Facebook de vos animaux sur RMC dans un instant. Mais auparavant, Laetitia, on va découvrir sans doute l'événement cinématographique de ces dernières semaines.
Et oui, c'est l'Odyssée, et oui, c'est le film sur le commandant Cousteau. Tout le monde connaît le commandant Cousteau avec son célèbre bonnet rouge.
Oui.
Voilà, et avec Lambert Wilson joue Jean-Yves Cousteau, Audrey Tautou. Simone Cousteau, sa femme.
Et Pierre Toutou.
Toutou.
Cela dit, dans une émission dédiée aux animaux.
C'est une déformation professionnelle.
Elle ne peut s'appeler que Audrey Toutou. Franchement.
Et Pierre Ninet, qui est Philippe Cousteau, un des fils du commandant Cousteau.
Pierre Ninet, vous avez dit aussi. Finalement,
non, j'ai dit Ninet.
Ah, pardon, j'avais compris Ninet. Parce que là, on était encore après le Toutou. Parfait.
Et Aurélie Frex, notre productrice, a vu le film et a rencontré le réalisateur.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Aurélie.
Bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Oui, j'ai eu la chance de voir ce film qui est vraiment un film événement, hein, qui est sorti mercredi.
C'est vrai.
L'Odyssée. On écoute cette jolie musique. Voilà, un joli thème musical. Oui, c'est vrai, le commandant Cousteau, on le connaît tous, sauf peut-être les moins de 20 ans. Mais bon, pour nous, c'était les dimanches après-midi.
Oui.
Les documentaires qu'on regardait en famille.
C'était génial, c'est vrai.
Voilà, la Calypso, bien sûr.
Et oui.
Et oui, c'était ce fameux navire du commandant Cousteau. Et là, dans ce film, donc réalisé par Jérôme Salle, on découvre justement Cousteau, l'homme. Donc le film débute en 1948. Jacques-Yves Cousteau, il est alors officier de marine et il vient d'inventer le scaphandre autonome.
C'est vrai, c'était un événement à l'époque.
Et oui. Et grâce à cela, il découvre un monde qui était un peu comme la Lune, quoi. Un monde entièrement inconnu à l'époque.
Le monde du silence.
Exactement, le monde du silence. Alors on écoute un extrait de la bande-annonce pour se plonger, c'est le cas de le dire, dans l'ambiance du film.
Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Calypso.
Tu vas pas acheter ça?
Ah bah c'est déjà fait.
Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser.
On entend les voix de Lambert Wilson, Audrey Tautou, évidemment, c'est ce casting.
C'est vrai que c'est un casting haut de gamme quand même.
Ouais, c'est 3 étoiles, d'autant que Pierre Ninet également, c'est vraiment l'acteur français qui monte, l'acteur du film Yves Saint Laurent. Et c'est un film qui a mis plusieurs années à se monter. C'était une longue écriture de scénario, parce qu'on parle ici d'un mythe. Le commandant Cousteau, c'est quand même un des Français les plus célèbres au monde. Et donc son réalisateur, Jérôme Salle, alors c'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur français qui a vraiment mené de grandes réalisations. Largo Winch 1 et 2, c'est lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de film attendu.
Alors, faut savoir quand même que Cousteau, c'est un personnage qui est controversé aussi aujourd'hui.
Oui, pour les défenseurs de l'environnement, Cousteau, il déchaîne les passions. C'est à la fois un personnage qui est adulé et détesté. Et c'est un personnage qui a évolué au fil des années. C'est ce qui a intéressé le réalisateur Jérôme Salle, que j'ai eu la chance de rencontrer. On l'écoute.
Cousteau, c'est un homme du XXe siècle. Vraiment, à travers lui, on peut raconter le XXe siècle. Donc, ça veut dire qu'il est né en 1910. C'est sans doute le dernier grand explorateur, parce qu'il a découvert le dernier monde inconnu, qui était le monde sous-marin. Et ce monde, Est-ce que c'était un homme de son époque? Il avait effectivement envie de le conquérir, de le dominer et de l'exploiter, d'exploiter ses ressources. Donc il s'est jeté là-dedans à corps perdu. Et il a compris au fil des années, en revenant sur les lieux où il avait déjà plongé, il a compris peu à peu que la faune était en danger, que cette planète, que ce monde qu'il avait découvert était en danger.
Et oui, Cousteau, c'est 1910-1997, donc c'est exactement ça. C'est l'histoire du XXe siècle, c'est ce qu'il dit. Et voilà, et en retournant explorer ce qu'il avait tenté de conquérir lorsqu'il avait découvert le monde sous-marin, mais il s'est rendu compte que ça se dégradait au fur et à mesure. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut arrêter de conquérir, mais il faut protéger. Et c'est là qu'il est devenu ce grand homme de l'environnement et de la protection des espèces grâce à ses observations. Et du coup, le réalisateur Jérôme Salle m'a raconté que en tournage, il avait fait un petit peu la même expérience parce qu'il a tenté d'aller tourner à nouveau les images, des images identiques à ce que Cousteau avait tourné dans les années 40.
Là, ça a dû être le choc, je pense.
Et là, exactement. Voilà.
Exactement.
Il y avait un problème avec la faune qui n'était plus là, justement.
Il n'a jamais retrouvé la faune sous-marine des années 40 en Méditerranée. Si bien que, en fait, tout le film est en images réelles. Le seul moment où il met des effets spéciaux, c'est ce moment-là où il est obligé d'ajouter de la faune sous-marine dans ces images.
C'est incroyable.
Alors, ce film, ça a été aussi un tournage aux quatre coins du monde, comme le faisait Cousteau finalement, qui voyageait tout le temps.
Bah, c'est exactement ça. Hein. Donc, par exemple, il y a une partie du tournage qui a été faite en Antarctique. Donc ça, c'est exceptionnel, hein, un film tourné en Antarctique. 14 jours de tournage là-bas, une tempête énorme. Enfin bon, c'était un peu l'apocalypse de tourner comme ça sur ce bateau comme Cousteau. Mais l'Antarctique, c'était important pour Cousteau, hein, puisque ce qu'on gardera beaucoup certainement de lui, c'est cette signature du traité de Madrid pour l'Antarctique en 91 qui en protégeait le continent de toute exploitation minière pour 50 ans. À l'époque, on se souvient de cette image où il avait fait venir 6 enfants venus de 6 continents pour prendre symboliquement possession de l'Antarctique au nom des générations futures. Voilà, et il y a cet autre moment incroyable de magnifiques images avec des requins. C'est un moment où on a peur et on a peur pour Pierre Ninet, justement. Et Jérôme Salle nous raconte le tournage de cette scène incroyable aux Bahamas avec des requins.
On a tourné la séquence en réel avec les acteurs. D'ailleurs, Pierre Ninet était là. Et pour Pierre et pour moi, on s'en est parlé des mois avant de cette séquence qui à la fois nous excitait et nous effrayait, je crois, l'un comme l'autre. Moi, j'avais jamais plongé avec des requins non plus. Et en fait, quand on est arrivé, on s'est aperçu que passer cette première appréhension, plonger avec des requins était une expérience absolument exceptionnelle qui finalement vous amène une forme de sérénité. Il y a une beauté chez cet animal qui vous stupéfait et être entouré comme ça de ces animaux, c'est une chance incroyable. Ça paraît dangereux, mais ça n'est pas dangereux, en fait. Il y a moins de 10 accidents mortels par an dans le monde dus à des requins. Et dans le même temps, nous, les humains, nous massacrons 100 millions de requins par an. Voilà, ça donne une idée. En fait, le prédateur, c'est nous, c'est pas le requin.
C'est vrai. Alors au final, Aurélie, on va le voir ou pas ce film?
Ah oui, franchement, on peut aller le voir les yeux fermés, mais ce serait dommage d'aller les yeux fermés parce que les images sont tellement magnifiques. Et surtout, on ouvre ses oreilles pour la musique originale d'Alexandre Desplat. C'est juste absolument exceptionnel. Voilà, c'est l'histoire d'un homme passionné. Ça déconstruit, c'est vrai, un mythe parce que c'est un homme un peu égoïste qui laisse tomber sa famille pour sa passion très souvent. Mais voilà, c'est l'histoire aussi de l'évolution de la pensée de l'homme sur l'environnement.
Alors, une crise de conscience.
On n'a pas beaucoup parlé de Lambert Wilson, qui est exceptionnel dans ce film. Voilà. Et simplement pour ça, pour voir sa prestation, n'hésitez pas à aller le voir. Il est en salle mercredi dernier.
Depuis mercredi.
Merci beaucoup, Aurélie.
Merci avec beaucoup.
Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo LOLcat. Alors là, on quitte la mer pour aller sur un petit stade. Voilà. Où d'un côté, vous avez une tortue et d'autre côté, vous avez
un lapin.
Le lièvre et la tortue. Qui
nous
va gagner cette course?
La fable du lièvre et la tortue. Et qui va gagner la course?
Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le résultat est étonnant. C'est à voir sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur J'aime. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
Oui, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Un bon dimanche et je vous embrasse.
Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Moreau pour notre rendez-vous auto du dimanche, bien sûr. Et vos questions auto 32-16, à tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.